Rodrigo Duterte est le maire de Davao, qui est la quatrième ville des Philippines, une ville d'un million d'habitants, où il a été maire pendant plus de 20 ans et où il a mené une politique de répression assez dure, assez radicale, pour ramener l'ordre et nettoyer la ville, comme il dit, de toutes les scories de la corruption et des petits trafics. Il prétend appliquer ces méthodes répressives très dures au niveau national pour nettoyer le pays de la corruption et en finir avec les faiblesses structurelles des Philippines. C'est un candidat qui caracole en tête d'abord parce que la presse philippine, les médias philippins apprécient énormément les effets d'annonce. Ça leur fait vendre du papier. Et donc, c'est comme ça que Duterte, alors qu'il est rentré dans la campagne assez tardivement, a d'une part occupé les premières places parce qu'il a fait des annonces toujours très spectaculaires, et d'autre part parce qu'il a également vidé, je dirais, le débat de la substance politique pour se limiter, je dirais, à ces effets d'annonce qui peuvent être un peu réducteurs.
On a l'impression aussi que c'est un personnage. Je vais tuer mes enfants s'ils se droguent.
Absolument. C'est un personnage qui n'a pas vraiment d'éducation, hein, et donc on peut s'inquiéter, si vous voulez, sur ses compétences réelles pour exercer les plus hautes fonctions de l'État. C'est un personnage qui ne fait pas dans le détail, hein, et qui donc pourrait inquiéter parce qu'il a mis en place à Davao une politique particulièrement abrasive qui a effectivement permis de ramener l'ordre à Davao, mais au prix d'excès et d'abus qui ont quand même coûté la vie à plus de 1200 personnes, y compris des enfants. Donc si vous voulez, on peut véritablement s'inquiéter sur les effets de cette politique au niveau national, parce que ça serait d'une certaine façon dénier aux Philippines un recours à l'état de droit et à la règle juridique.
On dit aussi que les instances démocratiques en tant que telles sont menacées, avec justement son intention d'abolir le Congrès et de nommer un gouvernement révolutionnaire, ce qui pour moi ne veut pas dire grand-chose, mais sans doute beaucoup plus pour vous.
La vraie difficulté, si vous voulez, c'est qu'aux Philippines, on a des procédures démocratiques, mais on n'a pas de substance démocratique, puisqu'on a schématiquement des jeux politiques qui fonctionnent autour de dynasties politiques. Donc, ou vous appartenez à ces dynasties et vous maintenez ces jeux-là, ou vous vous y opposez parce que vous n'appartenez pas à ces dynasties. Et c'est le cas, évidemment, de Duterte. Donc, c'est effectivement très angoissant parce que, de toute façon, ça va bloquer les quelques possibilités de progrès des jeux politiques qui sont néanmoins réels. Hein. On l'a vu, par exemple, avec un président comme Ramos, qui ne faisait pas partie de cette élite et qui a quand même réussi à faire progresser le pays par des règles institutionnelles plutôt démocratiques. Là, si vous voulez, on a une autre façon d'agir qui, effectivement, va générer énormément d'inquiétudes, d'incertitudes. On entend parler aujourd'hui à Manille de rumeurs de coup d'État au cas où Duterte serait élu. Ce serait donc un retour de l'armée aux affaires. Vous voyez toutes les possibilités de régression qui sont en train de se mettre en place aux Philippines.
Oui, en plus, c'est un pays où il y a déjà eu des soulèvements populaires contre le dictateur Marcos, contre le président Estrada. Il y a d'anciens militaires qui, de fait, parlent de renverser le président qui n'est pas encore élu. Comment est-ce que lui compte se maintenir ou maintenir la stabilité du pays et donc celle de son gouvernement également?
Je ne l'ai jamais interrogé, mais je crois qu'il n'a pas véritablement de vision. Il est de toute façon dans le court terme et il n'a pas véritablement de programme politique, il n'a pas de programme économique, il a encore moins de programme en termes de politique étrangère. Il a simplement dit qu'il s'opposerait aux bases américaines et qu'il se rapprocherait de la Chine. Donc, si vous voulez, on est en permanence dans l'effet d'annonce et l'annonce un peu simplificatrice. Donc, cela ne peut pas tenir lieu de programme politique. S'il est élu, il y aura de toute façon un second tour et je pense que beaucoup va se jouer pendant le second tour. Est-ce qu'on va avoir une coalition autour du candidat qui sera arrivé numéro 2? Est-ce qu'on va avoir des manifestations? Est-ce qu'on va avoir des manœuvres militaires? On va voir, mais je crois que en tout cas, il est fort probable que dans les prochaines semaines, les Philippines retournent au chaos politique qui était leur lot dans les années 70, début des années 80.
Qui sont les quatre opposants qui se présentent contre lui? Est-ce qu'il y en a un qui est plus crédible qu'un autre?
Il y a deux autres candidats qui risquent d'arriver en seconde position. D'une part, Mar Roxas, qui est le candidat entre guillemets d'Aquino, qui est un ancien ministre de l'Intérieur, un technocrate, qui manque de charisme, mais qui certainement est le candidat de l'élite, de l'oligarchie. Son grand-père a été le premier président des Philippines. C'est donc d'une certaine façon quelqu'un qui rassure, mais précisément en même temps qui ne renouvelle pas les jeux politiques. La seconde candidate qui a des chances de l'emporter, qui est aujourd'hui d'ailleurs numéro 2, suivant les derniers sondages, c'est Grace Poe, qui a dominé les élections sénatoriales en 2013, qui est la fille adoptée d'un ancien acteur de cinéma, qui ne fait pas partie de l'oligarchie, mais qui est assez populaire auprès des Philippins. Elle est plus modérée, on va dire, que Duterte, donc elle pourrait également rassembler autour d'elle une coalition, comme l'avait fait en son temps d'ailleurs Madame Aquino.